Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Dans un livre paru en juillet 1989, « L'espoir et la vie », l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, égrène avec une touchante simplicité les souvenirs très personnels qu'il conserve de cette expérience unique du pouvoir. Les femmes dans la vie publique, donc, extrait. Pendant mon septennat, le gouvernement a toujours compté plusieurs femmes chargées de responsabilités importantes. Cela répondait à une intention délibérée de ma part. Je pensais que le mouvement d'émancipation des femmes par rapport à la situation de dépendance où notre société les avait longtemps maintenues était une occasion à saisir pour la France. Elle pouvait apporter à notre vie publique les éléments dont celle-ci est souvent démunie. Un plus grand réalisme, davantage de prudence dans la formulation du jugement, une intuition plus juste des réalités de la vie quotidienne. Il m'avait fallu batailler pour les nommer, à l'exception de Simone Veil, pour laquelle Jacques Chirac m'avait donné immédiatement son accord. Cette opposition tenait moins à la nature de femme qu'au fait que les places étant rares et les promesses nombreuses, le milieu politique ne voyait pas pourquoi on compliquerait encore le problème en réservant des places à des ministres féminins. Je me réjouis de leur présence et de leur contribution aux travaux du Conseil des ministres. Trois d'entre elles y ont laissé une marque particulière. Ce ne sont pas toujours, d'ailleurs, les membres du gouvernement les plus connus du grand public qui accomplissent le meilleur travail. Ainsi, Christiane Scrivener a été un excellent secrétaire d'État à la consommation. En s'entourant d'une équipe réduite, mais de très bon niveau, elle a défini en quelques mois une politique de la consommation libérale et intelligente. Quand elle présentait au Conseil des ministres ses communications, elle était économe du temps des autres, parlait d'une voix douce et précise, avec le charme serein des Alsaciennes et leur fermeté de caractère. Alice Saunier-Saïté avait créé autour d'elle, parmi les ministres, une sorte d'aura affectueuse. Quand elle arrivait au Conseil, elle déclenchait une commotion. On l'interpellait, on la tutoyait, on l'embrassait. Je partageais cette affection. Je lui avais fixé comme objectif d'améliorer la qualité de notre enseignement supérieur. S'il y a un domaine où la France peut viser l'excellence, c'est bien celui de la connaissance et de la culture. Alice a pris le sujet à bras-le-corps sans jamais perdre de vue la direction fondamentale. Simone Veil. Elle a atteint la notoriété à la suite du débat parlementaire sur l'interruption volontaire de grossesse. On la connaissait déjà pour son passé, celui d'une jeune fille belle, fraîche, arrêtée à Nice avec sa mère et sa sœur en raison de ses origines juives, sans même que son père, rassuré par son patriotisme traditionnel, ait vu venir l'arrestation. Elle fut ensuite déportée dans l'enfer d'Auschwitz, dont elle a traversé les humiliations, la volonté de destruction et de déchéance, pour en revenir profondément marquée, mais miraculeusement intacte. Le problème de l'avortement était difficile à traiter pour moi. D'éducation et de conviction catholique, très ignorant des données médicales et sociologiques, j'avais assisté, comme chacun, à la montée en intensité du problème. La comparution de femmes soupçonnées d'avortement devant les tribunaux donnait lieu à des manifestations pénibles et grotesques, exploitées d'une manière indigne sur les écrans de la télévision par les adversaires ou par les partisans de l'état de choses existant. La loi, signée à Rambouillet en 1917, prévoyait des peines de prison de 6 mois. Celles-ci étaient rarement décidées, jamais appliquées. Les législations libérales existant dans les pays voisins, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Suisse, permettaient aux femmes de conditions aisées de résoudre leurs problèmes par un rapide aller-retour qui restait anonyme. Les autres, en étaient réduites à la clandestinité et au recours à des moyens dégradants pour la dignité féminine qui compromettaient souvent leur santé et laissaient des séquelles psychologiques durables. On ne pouvait pas en rester là. La loi civile devait être rendue compatible avec l'état social réel. Il ne s'agissait pour personne, comme on l'a dit, d'approuver l'avortement, mais de transférer sur la responsabilité individuelle une partie de ce qui était jusqu'ici du domaine de la loi collective. Chacun devait respecter les impératifs de sa conscience ou de sa foi, mais ne déciderait plus pour les autres. Encore fallait-il prévoir des dispositions pour assurer une information médicale sérieuse et pour obliger les femmes à réfléchir longuement aux conséquences de leurs décisions. C'est pourquoi des entretiens obligatoires et des délais étaient institués. Enfin, s'agissant d'une décision individuelle, volontaire et non pas subie, on avait écarté le remboursement par la Sécurité sociale en réservant celui-ci aux seuls avortements médicaux. La mise au point du projet de loi avait exigé plusieurs réunions. Celles-ci, qui se tenaient dans le salon des aides de camp au rez-de-chaussée de l'Élysée, réunissaient le Premier ministre, Jacques Chirac, assis en face de moi, Jean Le Canuet, ministre de la Justice, Simone Veil, ministre de la Santé, Michel Poniatowski, ministre de l'Intérieur, Michel Durafour, compétent pour la Sécurité sociale, et Jean-Pierre Fourcade, en raison des conséquences financières possibles du projet. Il fallait éviter les extrêmes. Le blocage d'un côté, le dérèglement de l'autre. Quand l'équilibre a été trouvé, le texte rapporté par Simone Veil a été approuvé par le Conseil des ministres, pratiquement sans débat, puis transmis au Parlement. Je n'ai pas suivi le détail du débat parlementaire, ce n'était pas ma responsabilité, mais j'en lisais le compte-rendu dans la presse et j'en ai aperçu des images dans les journaux télévisés. Celle qui m'a le plus ému, dont je me souviens comme si je l'avais encore sous les yeux, et celle de Simone Veil dans son tailleur de Chanel que la caméra avait prise de haut au banc du gouvernement à la fin d'une séance de nuit, pleurant de détresse. Elle avait été grossièrement mise en cause dans un débat qui pourtant n'avait pas manqué jusque-là de dignité. Elle avait craqué sous la fatigue, sous l'insulte, et peut-être, lorsque les nerfs faiblissent, sous les souvenirs. Cette image a bouleversé l'opinion. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, une majorité a voté la loi sans recours à une procédure de contrainte. Si la Constitution me l'avait permis, j'aurais demandé aux électeurs de confirmer la loi par un référendum et le dossier eût été refermé définitivement. Mais l'article 11, relatif au sujet possible de référendum, ne l'autorisait pas. Le débat s'est poursuivi pendant les années suivantes, et une partie de l'opinion m'a tenu rancune de cette mesure, en oubliant les circonstances où elle était intervenue, et en déformant vicieusement sa nature, comme si elle manifestait, de ma part, une préférence pour l'avortement.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.